Les matins se poursuivent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Déjà éprouvés par 9 années de guerre, les civils syriens vont-ils faire les frais de nouvelles sanctions décidées par les États-Unis? Des entités étrangères collaborant avec le régime de Bachar el-Assad sont officiellement visées, mais par ricochet, la reconstruction du pays est pénalisée.
Donald Trump aime aussi rudoyer ses alliés comme l'Allemagne d'Angela Merkel. L'Allemagne d'où le président des États-Unis veut retirer la moitié des soldats américains. Pression sur Berlin pour participer davantage au budget de l'OTAN.
À la une en France, la crise liée au coronavirus. Et cette question, peut-on retrouver une souveraineté sanitaire en relocalisant certains médicaments et vaccins?
Et puis, la crise va-t-elle mener à une nouvelle guerre des prix bas dans la grande distribution avec des conséquences dramatiques, le plus souvent sur le revenu des agriculteurs français?
Après les rassemblements de soignants hier et les tensions à Paris en fin de manifestation, comment expliquer que les défilés dégénèrent presque à chaque fois? Frédéric Saïs posera la question dans son billet politique après ce journal. Elle porte le nom du transfuge syrien qui avait fait sortir clandestinement plus de 50 000 photos attestant de la torture généralisée dans les prisons syriennes. La loi César, imposée par les États-Unis à partir d'aujourd'hui, vise à décourager tous les investisseurs étrangers qui voudraient participer à la reconstruction de la Syrie en collaborant avec le régime de Damas. Et c'est un fait inédit, cela comprend les entités russes ou iraniennes présentes en Syrie. Mais dans un pays dévasté par 9 années de guerre, dans une Syrie en ruine, cela signifie également la suite du cauchemar humanitaire pour la population civile. Christian Chesneau.
Dans son hôpital d'Alep, le docteur Marwan El-Ratib voit défiler tous les malheurs d'une population traumatisée par la guerre qui survit dans la misère. Lui-même gère son hôpital avec des bouts de ficelle. Les nouvelles sanctions américaines de la loi César sont pour le docteur El-Ratib un nouveau coup de massue.
Moi, j'ai dit toujours, la santé doit être sans frontières et ne doit pas être un sujet de jouer sur la vie des personnes. Il y a l'embargo sur nous pour les équipements médicaux. Si, par exemple, j'ai une machine d'anesthésie, autre machine qui tombe en panne, on ne peut pas le réparer, on ne peut pas le changer.
Pire, aujourd'hui les Syriens craignent plus la faim que la violence, s'alarme l'économiste franco-syrien Samir Haïta.
Les sanctions type César appliquées sur la Syrie, mais surtout que les Américains essaient d'appliquer sur tous les pays environnants, va faire qu'on va rentrer en Syrie dans une phase de famine. Déjà, certains rapports parlent de plus de 80% de la population en Syrie sous le seuil de la pauvreté. On va vers une famine.
À l'instar des sanctions contre l'Irak de Saddam Hussein dans les années 90, la loi César pourrait avoir l'effet opposé à celui recherché, autrement dit, renforcer l'emprise de Bachar el-Assad sur un pays affamé.
En Syrie, les sanctions sont-elles efficaces? C'est un dossier à retrouver en une sur franceculture.fr. La pression des États-Unis qui s'exerce également sur les pays normalement alliés de Washington, comme l'Allemagne d'Angela Merkel, le pays européen qui accueille le plus de militaires américains. Donald Trump a confirmé en début de semaine vouloir retirer plus de 9000 hommes d'Allemagne afin de faire pression financièrement sur Berlin, qui selon Donald Trump ne participe pas assez au budget de l'OTAN. Une pression qui inquiète justement l'Alliance Atlantique, alors que des entretiens doivent se tenir aujourd'hui entre les ministres de la Défense de l'Alliance. Des discussions qui s'annoncent tendues, Nathalie Hernandez.
Dès son arrivée au pouvoir il y a 3 ans, Donald Trump avait menacé ses alliés de ne plus jouer la solidarité s'ils ne s'engageaient pas à contribuer plus au budget de l'OTAN pour atteindre les 2% de leur PIB. La semaine dernière, devant les cadets de l'Académie militaire de West Point, le milliardaire américain avait d'ailleurs répété que l'Amérique n'était pas le gendarme du monde. Une fois encore, Donald Trump s'en prend à l'Allemagne, jugé selon lui à la fois mauvais élève de l'Alliance et mauvais partenaire commercial. L'annonce d'un retrait des soldats américains outre-Rhin est une question sérieuse, a estimé hier lors d'un point presse Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l'OTAN a pourtant rappelé que ces 2 dernières années, l'Amérique du Nord n'avait cessé d'augmenter ses effectifs en Europe, que ce soit à travers les nombreux exercices auxquels les États-Unis participent, ses missiles déployés en Roumanie ou encore ses navires dans la Baltique. Ce que doit entendre Washington, a conclu Jens Stoltenberg, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la protection des Européens, mais c'est aussi l'expression de la projection de la puissance américaine en dehors de ses frontières.
Donald Trump qui veut par ailleurs offrir un avenir sûr aux Américains de toutes les races, religions, couleurs ou croyances, et cela passe pour le président des États-Unis par un décret interdisant les prises d'étranglement sauf en cas de danger pour la vie de policiers. C'est une réforme réforme trop limitée qui a été annoncée, estiment les manifestants qui se mobilisent depuis la mort de George Floyd il y a 3 semaines. Les États-Unis, qui comptent désormais davantage de morts du coronavirus que de morts durant la Première Guerre mondiale, 740 décès liés à la Covid-19 en 24 heures, soit 116 850 morts au total. Et sur le continent américain, l'inquiétude gagne toujours. Le Brésil, le pays a enregistré rien qu'hier 34 918 nouveaux cas de Covid-19. C'est un record de contamination en 24 heures. Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. L'OMS salue, elle, une percée scientifique après l'annonce hier par des chercheurs britanniques qu'un médicament de la famille des stéroïdes, la dexaméthasone, réduisait d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par la Covid-19. Une bonne nouvelle donc pour l'OMS qui craint une nouvelle vague épidémique alors que la Chine tente de contrôler de nouveaux foyers à Pékin. Les écoles ont été fermées hier dans la capitale chinoise et les deux aéroports de la ville annulent ce matin plus d'un millier de vols après donc un rebond des cas de Covid-19. Et puis à propos de la dexaméthasone, Nicolas Martin reviendra cet après-midi sur le sujet dans la méthode scientifique à partir de 16h cet après-midi sur France Culture dans le journal des sciences de Natacha Triou.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Dans le contexte, de la recherche d'un vaccin, Emmanuel Macron a vanté hier la nécessité de retrouver une souveraineté sanitaire.
C'était lors d'une visite sur un site du groupe pharmaceutique Sanofi près de Lyon. Le chef de l'État a mis en avant la nécessité de relocaliser la production de certains médicaments et de vaccins. Sanofi a annoncé un investissement de 600 millions d'euros pour une usine de vaccins. De son côté, la France va débloquer 200 millions d'euros pour financer des centres de recherche et de production dans la santé et développer d'ici l'été un mécanisme pour corriger les vulnérabilités hexagonales. Pour Olivier Petitjean, coordinateur de l'Observatoire des multinationales, ces annonces pourront améliorer certes les problèmes d'approvisionnement ou de rupture de stock, mais pas la dépendance au secteur privé pour ces besoins pourtant essentiels.
On résout un aspect du problème qui est l'aspect des longues chaînes d'approvisionnement en Chine, en Inde, qui peuvent être rompues à l'occasion d'une crise ou d'une épidémie. Mais c'est qu'un aspect du problème. L'autre aspect du problème, qui est peut-être plus important de mon point de vue encore, c'est la dépendance du secteur public et des gouvernements pour des médicaments essentiels envers le secteur privé et en particulier envers les grosses multinationales extrêmement financiarisées qui ont des actionnaires qui demandent beaucoup de dividendes et de retours sur investissement. Et parallèlement, toute la capacité publique, à la fois en termes de recherche, mais aussi de production de certains vaccins, de certains principes actifs essentiels, tout ce qu'il y avait comme production publique a été privatisé. Donc, ce qui fait que les pouvoirs publics et les gouvernements se retrouvent en situation de dépendance totale vis-à-vis de ces grands laboratoires. Et ça, c'est un modèle qui n'a pas du tout été remis en cause par la crise qu'on vient de connaître ou qu'on connaît encore du Covid-19. Au contraire, là, on reste vraiment dans un modèle de pure dépendance au secteur privé. Et c'est ça, c'est dommageable à la fois pour le Covid-19, mais plus généralement pour beaucoup de médicaments, y compris essentiels, pour lesquels on connaît de plus en plus de pénuries à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et le gouvernement a fait le choix et continue à faire le choix de mettre 200 millions ou plus simplement vers le secteur privé, de ne pas flécher une partie de cet argent, au moins une partie de cet argent, pour reconstruire une capacité publique qui serait là une vraie garantie de souveraineté et d'indépendance.
Olivier Petitjean, coordinateur de l'Observatoire des multinationales, il répondait à Catherine Pétillon. Alors que des dizaines de milliers de soignants ont manifesté hier un peu partout en France, réclamant encore et toujours davantage de moyens pour l'hôpital et de meilleurs salaires, la Mutualité française dévoile, elle, ce matin, ses propositions dans le cadre du Ségur de la santé. Elle propose notamment de baisser la rémunération des soignants isolés pour les pousser à se regrouper, ce qui risque de braquer bien des soignants qui sont installés en libéral. La crise du coronavirus va-t-elle mener à une nouvelle guerre des prix bas dans la grande distribution, avec des conséquences dramatiques le plus souvent sur le revenu des agriculteurs français? On peut le craindre en effet, car les grandes enseignes de supermarchés s'attendent à voir arriver des clients au pouvoir d'achat diminué. Carrefour ou Leclerc communiquent déjà sur le thème de la défense du budget des Français. Et pour anticiper cette guerre des prix, le géant laitier Lactalis a d'ores et déjà annoncé qu'il allait baisser le prix du lait payé à ses producteurs à leur choix.
En quelques mois, le prix du lait est passé de 330 à 315 euros la tonne, et ce alors que le cours de cette matière première était en hausse début 2020. La crise du coronavirus a, semble-t-il, changé la donne et les industriels français ont décidé de s'affranchir des règles pourtant prévues par la loi alimentation il y a un an, à savoir intégrer au prix payé à l'éleveur une partie de ses coûts de production. impossible à tenir, selon Lactalis, le numéro 1 mondial des produits laitiers, qui annonce donc qu'il va revoir ses contrats à la baisse pour anticiper, selon son PDG Emmanuel Beignet, le risque d'un retour du discours sur la lutte pour le pouvoir d'achat, comprenez la guerre des prix bas que commencent déjà à se mener les grandes enseignes de la grande distribution. Après cette annonce, certaines organisations de producteurs de l'Ouest, de la France notamment, ont donc décidé de saisir le médiateur des relations commerciales. Une médiation déjà sollicitée plus tôt dans l'année et déjà à propos de Lactalis qui n'avait pas respecté les dispositions de la loi alimentation lors des négociations annuelles commerciales. Le groupe est sous la menace de sanctions financières. Lactalis qui, il y a quelques jours, dévoilait un chiffre d'affaires record pour 2019, près de 20 milliards d'euros.
Après la crise, eux rêvent d'un monde d'après sans projet jugé toxique sur le plan écologique ou social. Des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes appellent aujourd'hui à manifester, bloquer, investir des lieux jugés toxiques, donc comme un terminal pétrolier dans l'Aude, un entrepôt Amazon dans le Gard ou encore un projet d'autoroute en Dordogne. Benoît de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est à l'origine de l'appel. Il répond à Véronique Reberotte.
L'idée, c'est vraiment de lancer de nouveau un cycle d'action contre la réintoxication du monde, en se disant qu'on peut pas compter sur nos gouvernements, sur les lobbies nucléaires, agrochimiques, industriels, pour prendre les mesures qui s'imposent en termes environnementaux, qu'on pense que le moment du confinement a créé un moment de lucidité, de grande émotion sur la question de l'empoisonnement du monde, et que maintenant, nous, notre expérience depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est quand même l'action de terrain qui peut réussir à préserver des terres, qui peut réussir à ce que des projets nuisibles, toxiques, ne soient pas menés à bien, ou même à ce que des industries, à ce que des sites de production de ce type s'arrêtent. En tout cas, dans ce qui sera visé, il y aura des usines d'engrais, de pesticides, de la construction aérienne, des plateformes Amazon, des fermes-usines de poulets. Il y aura des sites aussi naturels, des zones humides, des terres arables, des terres cultivées, une forêt à côté de Rouen, etc. Tout un tas de sites aussi qui menacent d'être détruits par des projets de bétonnage et d'industrialisation. Et pour nous, c'était tout à fait aussi important, c'est pour ça qu'on a mené cet appel avec des syndicalistes, que la question des travailleurs, effectivement, de ces sites de production soient pris en compte et fassent partie des enjeux, parce que s'il y a des luttes aujourd'hui environnementales, écologiques à mener, il faut qu'elles se fassent aussi avec les travailleurs des sites concernés.
Benoît de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au micro de Véronique Reberotte. Troisième étape à présent de notre voyage sur les routes européennes à l'heure de la réouverture progressive des frontières. Ce matin, nous vous emmenons en Croatie, le pays qui avait compté 19 millions de touristes l'an dernier, essentiellement sur la longue côte de Dalmatie et sur ses dizaines d'îles. Un tourisme populaire ou familial, mais aussi un tourisme de luxe. Exemple à Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, où seuls les plus fortunés semblent vouloir revenir pour l'été. Le reportage d'Éric Biegala.
Dubrovnik, c'est sa vieille ville fortifiée sur la Méditerranée et ses palaces côtiers, une destination très prisée par une certaine clientèle. Ivan Vukovic organise des tours pour des touristes qui ont les moyens et qui viennent de loin, voire de très loin.
Ce sont surtout des Américains, des Canadiens, des Australiens et des Néo-Zélandais. Ils font 5 jours en Croatie et ce sont des tours plutôt chers. 5 000 $ par personne, ce qui est assez fou. Ils viennent de l'autre côté de la planète pour seulement 5 jours en Croatie.
Mais les 300 à 400 tours qu'Ivan organise chaque saison ne sont que souvenirs.
Tout a été annulé
et aucune chance de voir revenir cette clientèle-là avant la reprise des vols long courriers. Les seuls touristes de luxe aujourd'hui à Dubrovnik, ce sont les super riches. C'est le marché d'Iris Malobabic.
Dubrovnik a toujours été une destination de luxe. Le Monte Carlo de la Croatie.
Ses clients se sont précipités sur les villas qu'elle gère dès la fin du confinement dans leur pays, comme ce richissime Britannique arrivé de Londres le 22 mai en jet privé et qui vient de louer 4 villas de luxe pour 5 semaines.
C'est une seule personne. Il a beaucoup d'enfants, mais surtout beaucoup de personnel avec lui. Des enseignants, des secrétaires, un chef pour la cuisine, un prof de tennis, un coach de natation et tout le personnel pour les enfants. En tout, 25 personnes.
Ce type de vacancier-là, Dubrovnik, est sûr de les voir revenir dès les prochaines semaines. Il n'est pas sûr que ce soit suffisant pour sauver la saison. Le secteur du tourisme, première destination Dubrovnik, représentait en 2019 20% de l'économie de la Croatie.
Les très riches touristes au secours de Dubrovnik en Croatie, c'est à retrouver sur franceculture.fr. Dossier signé Eric Biegala et Gilles Gallinaro que nous suivons toute cette semaine sur les routes européennes à l'heure de la rouverture progressive des frontières. Les élections municipales telles qu'elles se tiennent cette année sont-elles conformes à la Constitution? Le Conseil constitutionnel a examiné lundi deux questions prioritaires de constitutionnalité à ce sujet. Il doit rendre ses décisions cet après-midi. On y revient dans le journal de 9h. Le temps de ce mercredi 17 juin, pluvieux sur une grande partie de l'Hexagone, voire orageux, un peu plus calme et plus sec près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, il fera 17 degrés à Saint-Malo, 20 degrés à Clermont-Ferrand, 22 à Paris et à Toulouse, 24 degrés à Bastia, 27 à Avignon. Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu.